En fait, il y a deux visages, hein. Du pape François, il y a cette image qu'il montre à l'extérieur et qu'il est réellement, quand vous pouvez l'approcher, il est réellement ce qu'il montre. Mais il y a aussi un homme qui, lorsqu'il est à sa table de travail, comme un chef d'entreprise, en fait, hein, quelque part, peut trancher de manière très vigoureuse dans le vif. Regardez au début de son pontificat comme il allait limoger le secrétaire d'État, le fameux cardinal Berton, un personnage assez sulfureux. Benoît XVI avait été incapable de s'en séparer, le pape François l'a fait. Regardez comme il s'est séparé du commandant de la garde suisse, Daniel Henrich, de manière très incisive, très vive.
Comment vous expliquez que tout au long de sa vie, et encore maintenant, il se retrouve aussi seul, à contre-courant du monde dans lequel il évolue finalement ?
Il n'est pas contre-courant du monde dans lequel il évolue, il est vraiment dans le monde. Je crois que c'est le premier pape qui sort déjà d'une capitale de 15 millions d'habitants. Quand il était archevêque et cardinal en Argentine, il est déjà allé aux périphéries géographiques et existentielles. Il allait très souvent le dimanche ou le samedi dans les bidonvilles, à l'extérieur de la ville. Disons, je crois que c'est le premier pape qu'on a qui est vraiment en phase avec le monde d'aujourd'hui, qui comprend les problèmes d'aujourd'hui. Mais il est clair que, bon, il est seul contre tous parce que ses idées dérangent. L'idée d'ouvrir l'Église à tous, de remettre l'humain au cœur de tout, c'est évidemment, c'est pas nouveau. Vatican II l'avait déjà promulgué, mais ça n'avait jamais été appliqué réellement dans les faits. Et lui, le fait.
Alors, vous avez enquêté sur ses ennemis. Qui sont-ils, finalement ?
Ben c'est un spectre assez large. Vous avez à la fois les ennemis de l'intérieur, donc en résumé 80% de la curie romaine, donc le gouvernement de l'Église, puis vous avez aussi des ennemis à l'extérieur du Vatican. Bon, alors, il y a les ennemis connus, comme la mafia italienne, comme l'État islamique. Il y en a d'autres, c'est plus larvé, moins apparent, mais enfin, si vous allez sur le net, vous trouvez des choses absolument horribles sur le pape, souvent émanant de milieux catholiques traditionnels.
Vous dites dans le livre, sur le plan donc, du dogme et de la morale, le pape François il n'a pas infléchi finalement la ligne de Benoît XVI. Il a notamment des positions assez fermes en matière d'avortement ou encore concernant l'union homosexuelle. Et pourtant, vous le reconnaissez, il n'y a quasiment aucune critique publique contre lui. Comment vous l'expliquez ça ?
J'explique ça parce qu'on a bien vu lors du synode des familles qu'il a essayé de faire bouger les choses et qu'il a été un peu mis en minorité. Il fallait une majorité des deux tiers pour faire passer tout cela. Donc il a un peu reculé pour mieux sauter, j'imagine, ensuite. Mais il est quand même assez progressiste. Oui, le dogme ne bouge pas, mais on voit quand même qu'il essaie de faire bouger les lignes. Il le fait évidemment à son rythme, il le fait au rythme du Vatican, tout est lent. Mais regardez par exemple sur les divorcés remariés, il n'a pas réussi à passer. Mais en Argentine, il donnait déjà la communion aux divorcés remariés. Donc il l'a déjà intégré. Mais évidemment, il doit bousculer des mentalités séculaires qui ne veulent pas changer.
Alors, dans le livre, vous évoquez donc pas mal de qualités du pape François. Est-ce que, selon vous, il a un défaut ou peut-être une faiblesse ?
Oui, il a des défauts, comme tout un chacun. Il peut être assez impatient, par exemple. Par exemple, dans le livre, j'évoque cette fameuse exposition d'un artiste argentin très connu qu'il a essayé d'interdire parce qu'il y avait à ses yeux des blasphèmes à la Vierge Marie, à Dieu, au pape, etc. Disons, c'est pas là le visage de Bergoglio que je préfère.